Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Créée en 2016, l'Union Féministe Libre est une organisation non gouvernementale marocaine qui lutte contre les violences basées sur le genre et la sexualité. Elle a ainsi participé, avec une quarantaine d'autres associations, à une mobilisation du mouvement féminin au Maroc pour une réforme profonde du Code de la famille, à qui elle reproche d'être discriminatoire. Elle a également lancé en 2018 à Rabat Manchoufouche, première application internet disponible en dialecte marocain et en français, qui permet de dénoncer toutes sortes de violences basées sur le genre ou la sexualité. Nidal Azari est la directrice de l'ONG. Elle nous en dit un peu plus sur son action. À suivre, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Nidal Azari.
Bonjour Éric Bataillon.
Fondatrice au Maroc de l'Union Féministe Libre. De quoi s'agit-il ?
Alors, je suis en effet la cofondatrice et directrice exécutive de l'UFL, Union Féministe Libre. C'est une ONG marocaine, féministe, intersectionnelle, qui traite et travaille sur toutes les violences fondées sur le genre et la sexualité.
Intersectionnelle ?
Justement, qui traite les violences fondées sur le genre et la sexualité. Donc, nous travaillons avec les femmes, les jeunes, les personnes LGBT. Notre féminisme ne s'inscrit pas uniquement dans un courant, mais il est très inclusif et englobe l'ensemble des droits humains.
Donc le terme féministe dans votre appellation est un terme choisi.
Oui, bien évidemment, parce que nous sommes féministes et il était très important pour nous, en créant l'organisation et l'association, d'appuyer ça et d'appuyer, parce que c'est aussi une position politique, de dire que nous sommes une ONG féministe avec ce terme-là, et puis féministe et libre.
Alors, comment lutte-t-on au Maroc contre les violences basées sur le genre et la sexualité ?
Comme partout au monde, puisque le patriarcat et la misogynie et les violences existent partout au monde. Dans notre cas, au sein de notre organisation, donc, nous offrons l'assistance juridique, psychologique, médicale, nous accompagnons les femmes et les personnes ayant subi ou survécu à des violences. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, il y a tout un travail de mobilisation, de plaidoyer, que ce soit au niveau marocain, maghrébin ou international.
L'UFL existe depuis le milieu des années 2010, c'est cela ?
L'UFL existe officieusement depuis 2014, enfin un peu avant, et officiellement depuis 2016. Alors la création ou le jour de l'Assemblée Générale s'est fait le 21 mars 2016. Et le 21 mars 2014, moi-même et quelques collègues à moi avions subi un harcèlement sexuel dans la rue. Et à l'époque, nous n'avions pas la loi 103-13 qui est passée il y a 2 ans. Donc le harcèlement sexuel dans la rue n'était pas criminalisé. Nous avons déposé plainte, on est allé vers la justice et nous avons eu gain de cause. Le monsieur avait été arrêté, il avait été condamné à 6 mois de prison ferme. Ce qui fait que nous, 2 ans plus tard, jour pour jour, nous avons tenu notre assemblée générale. Et 2 ans plus tard encore, le 21 mars 2018, jour pour jour, nous avons lancé la première plateforme, site web et hotline, et application pour que les femmes et personnes LGBT puissent déclarer les cas de violence en ligne que nous avons nommé Manchoufouche. Manchoufouche.ma pour le site. Et Manchoufouche étant le terme que l'on utilise souvent dans la rue pour harceler, donc pour faire appel un peu aux femmes et aux personnes qui passent. Et c'est ce que ce monsieur-là, le 21 mars 2014, avait utilisé aussi. Donc nous nous sommes réappropriés le terme et nous continuons ce combat.
Manchoufouche, ça veut dire quoi ?
Alors, pour traduire ça, je sais pas, est-ce qu'on peut pas se voir, se capter ? Mais c'est un terme qui a connotation, tout le monde, toutes les personnes savent que c'est pour du harcèlement dans la rue.
Alors sur votre site internet, dont voici l'adresse, https://unionfemlibre.org, vous écrivez que l'UFL, votre association, s'efforce de créer un avenir pour toutes les femmes. Comment voyez-vous cet avenir ?
Un avenir un peu plus libre de discrimination, de violence, où il y a plus de justice et d'égalité. Mais bien sûr, nous n'allons pas changer le monde en une journée. Enfin, on essaye, pas en une journée, en plusieurs années, plusieurs décennies. Et ce que nous écrivons s'inscrit dans le travail que fait le mouvement féministe et le mouvement des droits humains depuis des années et des années et des années. C'est pour changer un peu le futur pour les générations à venir.
Ces promesses, ces espoirs que vous exprimez, est-ce que ça passe par une législation particulière pour les femmes ?
Oui, bien évidemment. L'aboutissement de notre travail, c'est de pouvoir influencer et qu'il y ait des réformes législatives plus inclusives, plus incriminantes aussi, des violences. Et en effet, le mouvement féministe marocain a pu, depuis plusieurs années, assurer des réformes législatives dans le Code de la famille de 2004, la Moudouana, qui aujourd'hui, 15 ans plus tard, est en rediscussion à travers le mouvement féministe. Puis la loi 103-13 qui est passée il y a moins de 2 ans, donc qui criminalise toutes les formes de violences sexuelles, que ce soit dans la rue ou en ligne, ou c'est-à-dire même électronique, donc c'est énorme. Et nous espérons aussi pouvoir aider et continuer cette collaboration du mouvement féministe marocain pour aboutir aux réformes législatives.
Mais quand cette législation est adoptée au Parlement, est-ce qu'elle est suivie des faits ?
Alors la mise en vigueur demeure plus ou moins problématique. Par exemple, nous parlons souvent de la constitution de 2011 au Maroc, qui est très progressiste, c'est-à-dire en termes de rédaction et contenu. Et nous parlons souvent de l'article 19, donc qui justement indique et stipule l'égalité entre femmes et hommes, que ce soit au niveau en termes de droits politiques, sociaux, économiques, environnementaux, etc. Et nous attendons toujours une mise en vigueur effective et efficace. C'est là où il y a une problématique, c'est là où on voudrait voir plus d'engagement de la part des ministères concernés. La loi 103-13 aussi est passée il y a 2 ans presque. Nous avons toujours l'impression que, c'est-à-dire il n'y a pas tout le monde, toutes les personnes au sein de la société marocaine qui connaissent cette loi, qui savent concrètement que cette loi est passée, voici ce qu'elle contient. Et c'est quelque chose que nous avons aussi pu repérer lorsque nous avons organisé une campagne digitale, donc sur la loi 103-13 il y a 1 an maintenant. Et donc cette campagne digitale avait pu toucher 1,5 million de personnes en ligne. Et les retours que nous avions eus en tant qu'écho, c'est que beaucoup de personnes ne savaient pas de quoi il s'agissait. Beaucoup de personnes découvraient cette loi-là à travers les publications, les nôtres ou celles d'autres ONG féministes. Donc il faut une meilleure mise en vigueur, il faut une meilleure implication, il faut plus de budget aussi de la part de l'État pour pouvoir conscientiser et sensibiliser quant à ces lois-là, pour assurer que les lois assurent un vrai changement.
Alors, à côté de la législation, il y a évidemment votre action en tant qu'ONG. Vous êtes donné un rôle de défenseur, défenseuse des droits des femmes. Quelles sont vos actions en la matière plus particulièrement ?
Au quotidien, nous assurons justement ce suivi juridique, médical et psychologique, psychiatrique avec les cas que nous recevons. Et nous assurons aussi des formations, des ateliers au niveau national, que ce soit pour les femmes ou les autres personnes jeunes à orientation sexuelle différente. Donc aussi pour assurer plus de sensibilité et de conscientisation sur la thématique. Et nos actions se concentrent autour de ça, nos activités culturelles que nous organisons aussi au sein de l'UFL. Hormis le travail quotidien, notre équipe et le bureau exécutif, nous sommes aussi constitués de membres. Donc nous sommes actuellement à plus de 400 membres sur 10 villes différentes au Royaume. Ces 400 membres sont organisés en pôles. Donc nous avons actuellement 6 pôles qui sont le pôle média, le pôle culture, le pôle sport, le pôle écologie, le pôle juridique et le pôle santé. Donc chacun de ces pôles est constitué de membres qui travaillent dans ces domaines respectifs. Et ces membres-là font une grande partie de notre travail aussi pour changer les choses, les mentalités, le travail sur le terrain. Je peux vous donner un exemple. Nous avons organisé un atelier à travers le pôle santé avec des médecins membres à nous sur le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, où nous avons accueilli des femmes et des personnes trans. Donc le pôle juridique aussi essaye de faire ce travail-là d'influence d'un point de vue juridique et ainsi de suite.
Donc vous ne vous intéressez pas uniquement aux femmes et à la façon dont les femmes sont considérées au Maroc, vous vous intéressez aussi à d'autres minorités, c'est cela ?
En tant qu'ONG féministe et en tant que féministe tout court, on ne peut même pas s'imaginer refuser des services à des personnes qui viennent vers nous demander de l'aide. Et bien évidemment, en tant que féministe, encore une fois, et défenseuse des droits humains, nous pensons que les droits humains sont universels et indivisibles. C'est un peu ça la volonté et l'essence qui nous fait avancer. Et bien sûr, nous défendons et nous travaillons avec les femmes et les personnes LGBT et toute autre personne qui se sentirait persécutée de par son orientation sexuelle, son identité genre, son sexe, son âge, sa situation d'handicap, ça va de soi. Donc oui.
Êtes-vous confiante dans la capacité des femmes et des autres minorités dont vous parlez pour être plus autonomes et pour être de bonnes actrices au sein de la société civile ?
Bah écoutez, je pense que les femmes sont très très autonomes. Je pense que les femmes sont capables de le sent, elle sent actrice au sein de la société et la société civile. Le Maroc, de par son histoire, a connu cette présence féminine et féministe, même le mouvement nationaliste à l'époque du colonialisme qui s'organisait avec des dirigeantes femmes, etc., donc au début du XXe siècle, et bien avant aussi, historiquement, nous sommes tout de même le pays qui accueille l'une des plus anciennes universités du monde, qui est toujours fonctionnelle et qui a été fondée par une femme. Donc sur ce point-là, je suis convaincue que les femmes marocaines et maghrébines sont d'une force incroyable, qu'elles peuvent tout faire. Ce qui nous reste, c'est d'assurer que les lois qui nous ont été léguées et que nous avons aussi appuyées par la suite soient modifiées et créent plus d'espace que nos concitoyennes et nos concitoyens aussi méritent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre les grandes villes au Maroc où finalement la société évolue, il y a plus de liberté, plus d'égalité aussi entre hommes et femmes, et puis les campagnes où là la pression peut-être culturelle de la tradition est forte?
Alors, je pense que la différence qu'il y a entre le milieu rural et urbain, et c'est-à-dire les différences de mentalité, d'accès aux droits basiques tels que l'éducation, le savoir, l'emploi, les droits fondamentaux pour lesquels nous faisons la quête, n'est pas uniquement une situation propre au Maroc. Je pense que ça existe un peu partout, que ça soit au Maroc, aux États-Unis, en France ou ailleurs. Donc, il y a ces disparités-là. Nous pouvons remarquer qu'il y a eu pas mal de cas d'agressions homophobes qui ont été documentés en France durant les dernières années, et pas que dans les petites villes, justement, même dans des grandes villes. Je pense que le Maroc, comme tous les autres pays du monde, essaie d'avancer, c'est-à-dire à petits pas et des fois à grands pas, ce qui nous réjouit. Et je pense qu'il y a des efforts, que ce soit de la part de la société civile ou des autorités même, pour faire avancer et faire changer les choses. Il y a un autre petit point, c'est qu'on a souvent tendance à penser que la différence entre le milieu rural et urbain, c'est que le milieu urbain est progressiste et le milieu rural ne l'est pas. Mais moi, je pense que dans nos traditions, notre culture ancestrale, même amazigh, c'est-à-dire ça fait partie de notre société, la culture amazigh en soi est très matriarcale. Donc je pense que dans cette approche-là, nos milieux sont très respectueux, inclusifs, on a une très grande hospitalité et ça n'est que certains effets politiques, des réclusions du wahhabisme que nous sommes en train de vivre qui ont influencé comment on est aujourd'hui. Mais moi, personnellement, du temps de mes grands-parents et même mes parents, jamais on n'aurait imaginé quelqu'un battre une personne dans la rue parce qu'elle était différente. C'est-à-dire, cette génération-là ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se passent comme ça aujourd'hui au Maroc, en France, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde.
Merci Nidal Azari.
Merci Eric Bataillon.
Co-fondatrice et directrice exécutive de l'ONG Union Féministe Libre au Maroc.
Merci.
La revue de presse qu'écrivent les journaux d'Israël et du monde arabe cette semaine, eh bien, c'est ce que nous voyons avec Alexandre Boutchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, à la une de très nombreux journaux arabes, la situation en Libye.
Oui, et des journaux qui rapportent la progression des forces du gouvernement d'Union nationale en direction de la ville de Sirte. Des forces soutenues par la Turquie qui a envoyé des conseillers militaires, des djihadistes syriens et des armes et munitions. Les journaux indiquent que Sirte est stratégique car elle est la porte de l'Est libyen tenue par l'armée nationale du maréchal Haftar, mais aussi de la frontière ouest de l'Égypte. Une Égypte qui a menacé d'intervention directe et qui a été soutenue par la Ligue arabe. Une menace condamnée par les journaux proches du Qatar et de la Turquie. Mais pour les éditorialistes de la presse égyptienne et du Golfe, l'objectif de l'offensive militaire est d'étendre le pouvoir turc dans le monde arabe, comme du temps de l'Empire ottoman, et de restaurer les frères musulmans au pouvoir en Égypte. Les journaux mentionnent aussi les tentatives diplomatiques des Européens pour empêcher une guerre ouverte en Méditerranée.
Autre sujet largement traité dans vos journaux, Alexandre, le pèlerinage à la Mecque et le coronavirus.
Oui, et les journaux donnent des détails sur la manière dont se déroulera le pèlerinage. 10 000 pèlerins préalablement testés au lieu de 3 millions venant des quatre coins du monde et qui pourraient provoquer une nouvelle vague du virus. Même si le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue à augmenter, parfois à un rythme alarmant, tous les pays arabes ont allégé les mesures sanitaires. En Égypte, par exemple, les cafés vont rouvrir à partir de samedi. Toutefois, ils ne pourront accueillir que 25% de leur capacité. L'occasion pour les éditorialistes et humoristes d'imaginer comment se déroulera l'interview de l'éventuel client pour bénéficier d'une place au café. Certains ont même imaginé un marché noir de revente des places.
Oui, à partir de samedi, donc à partir d'aujourd'hui. Justement, Michel Paul, à propos du coronavirus en Israël, la situation s'aggrave, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Oui, près de 700 nouveaux cas par jour. Eric, la presse israélienne continue à se demander si c'est le début de la seconde vague de l'épidémie, mais les résultats sont là. Il n'est plus question véritablement de confinement général. Le blocus de plusieurs localités cependant, et des quartiers aussi qui ont été durement touchés, a d'ores et déjà été décrété, accompagné également d'autres restrictions, même si parallèlement le train, après des mois d'inactivité, a repris du service, mais tout est fait pour éviter l'affluence. Et puis, chacun a son professeur Raoult. En Israël, il s'appelle Yoram Las et il se produit allègrement dans les médias en expliquant qu'il n'y a pas de risque de seconde vague, puisqu'à son avis, il n'y a pas eu non plus de première vague. Pour Yediot Aharonot, les responsables israéliens n'arrivent clairement pas à maîtriser le retour en force du virus. Le service épidémiologique s'effondre. Dans les quotidiens aussi, les effets économiques de la pandémie. Plusieurs titres rappellent que dès la semaine prochaine, des centaines de milliers d'Israéliens n'auront plus droit aux allocations chômage accordées dans le cadre du confinement. Arrête se résume la situation en un titre, le nombre d'Israéliens en détresse augmente et même ceux qui sont chargés de leur venir en aide s'écroulent.
Autre sujet, Michel, l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, la date butoir approche.
Le 1er juillet, pour Arrête, l'annexion va se réduire en fin de compte à la peau de chagrin, ce sera une annexion purement symbolique et pour Marive, Eric, le compte à rebours a débuté. On attend maintenant, selon le journal, que le président américain Donald Trump se prononce à nouveau sur cette épineuse question de l'annexion dans le cadre de son plan pour le Proche-Orient, le deal du siècle. On peut citer quelques titres, l'annexion et l'escroquerie, estime l'ancien Premier ministre Olmert. La chute libre, affirme un commentateur, et un autre parle de point de non-retour. Quant à Israel Hayom, ce journal proche du pouvoir en Israël, il se déclare confiant. L'administration américaine tiendra ses promesses à l'égard d'Israël, titre le quotidien gratuit au plus fort tirage en Israël. Et puis Yediot Aharonot fait part d'une nouvelle initiative au Likoud, le parti de Netanyahou. Benny Gantz, son ex-rival devenu partenaire, deviendrait président d'Israël, un poste largement honorifique. Benjamin Netanyahou, lui, continuerait dans ses fonctions de Premier ministre.
Alexandre, les pages sportives de la presse arabe fêtent Liverpool qui a remporté la Première Ligue.
Oui, Liverpool qui est le plus arabe des clubs anglais grâce à sa vedette Mohamed Salah. Salah qui est devenu une idole adulée dans tout le monde arabe. En Égypte, certains avaient même voté pour lui à la présidentielle alors qu'il n'était même pas inscrit. Un intérêt d'autant plus grand de la part des pages sportives pour Liverpool que le football est à l'arrêt dans la plupart des pays arabes.
Michel Paul, on parle aussi beaucoup dans les journaux en Israël des émoluments du Premier ministre.
Benjamin Netanyahou se remplit les poches et autour de lui des SDF et des mendiants. Ce sont des caricatures que l'on retrouve tout au long de la semaine sous plusieurs formes dans les journaux israéliens. Une commission parlementaire s'est penchée cette semaine sur le salaire et aussi sur les frais d'entretien, notamment du domicile privé du Premier ministre. Netanyahou va recevoir à titre rétroactif des remboursements de la part du fisc, scandaleux pour les uns, tout à fait normal pour les autres. Bibi est un invalide économique, affirme même un proche du Premier ministre, une expression qui a fait les titres cette semaine. Les nouveaux misérables, proclame pour sa part le quotidien libéral Haaretz.
Et votre image cette semaine, Michel Paul ?
Eh bien, c'est la photo d'Amnon Abramovitch, commentateur politique vedette de la chaîne 12, escorté par la police lors d'une manifestation pro-Netanyahou à Tel Aviv, après avoir été agressé par des participants à cet événement. Abramovitch est un blessé de guerre, gravement brûlé au visage. Il critique régulièrement, virulemment le Premier ministre et il est en partie à l'origine des enquêtes qui ont mené à sa condamnation pour corruption. Netanyahou n'a pas réagi.
Merci Michel et merci Alexandre pour cette dernière revue de presse croisée de la saison. On se retrouve de nouveau ensemble début septembre dans Orient Hebdo. Réalisation et mise en onde Mathias Gulchani. Prenez soin de vous.